Arras. Arras.
Magazine Info 30, l'actualité vue d'ici, une émission à écouter sur Radio PFM 99.9, associative, libre et sans pub. Dans Info 30 aujourd'hui, on voulait continuer de parler de ce qui s'est passé pendant la campagne des élections régionales, mais on voulait le faire avec un point de vue un peu plus distant qu'au travers de réactions d'hommes et de femmes politiques. Du coup, on a demandé à Paul Masson, qui est militant de l'éducation populaire sur l'Arageois, d'évoquer ce sujet. Vous allez l'entendre dans un instant, ça dure un peu plus de 25 minutes, mais ça vaut le coup d'écouter l'intégralité de cette intervention. Du coup, pas de parti agenda dans ce magazine Info 30 aujourd'hui. Au micro de Radio PFM, Paul Masson, militant de l'éducation populaire, membre d'Attaque et de Culture et Liberté. Salut Paul.
Bonjour.
On vient de traverser avec les élections régionales une forme de crise politique. Et avec toi, Paul, on voulait avoir un autre angle que celui qui est généralement traité dans les médias sur cette crise. Alors tu nous proposes de repartir à la base. On dit souvent que les gens s'intéressent de moins en moins à la politique. Qu'est-ce que c'est le politique, Paul ?
Alors le politique, la politique... Ça vient de polis, un mot grec qui signifie la cité. Et la cité, c'était le territoire de base de l'organisation de la vie dans la Grèce antique. Le politique, c'est la manière dont les habitants d'un territoire, qui dépendent les uns des autres, vont s'organiser pour vivre ensemble sur ce territoire, en sachant qu'ils ont des intérêts différents. Voilà ce que c'est la politique. La politique, ça concerne... Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va consommer? Qu'est-ce qu'on va produire? Comment on va se répartir la valeur de ce qu'on a produit? Comment on va échanger entre les différents acteurs? C'est-à-dire que le cœur de la politique, ce qui l'a fait naître, c'est les besoins humains, c'est l'économie. Le cœur de la politique, c'est l'économie. Et pour ça, les hommes vont se donner des organisations, des formes d'organisation pour penser, vont déterminer des règles pour décider entre eux. Ils vont décider de quel territoire va être la base de leur organisation et comment faire l'organisation avec les territoires voisins. Tout ça, c'est le domaine de la politique, cette organisation. Et en même temps, ces règles qui se donnent, eh ben elles vont s'appuyer sur des représentations du monde, des échelles de valeur. Si on est dans un monde où on considère que tous les humains sont égaux, on ne va pas se donner les mêmes règles que si on considère qu'il y a deux types d'humains. Il y a des plus humains que d'autres. Et au niveau de la consommation, eh ben, on va fixer des règles qui vont être différentes. Dans l'Antiquité, on ne tenait pas compte de l'esclave de la même manière que du citoyen romain. Voyez bien comment la politique, ça va être d'abord de l'économie, pour satisfaire les besoins d'une population, et pour ça, des règles qui s'appuient sur des échelles de valeur.
Alors, pour fixer ces règles, il y a plusieurs manières. Bon, a priori, on est plutôt dans une démocratie en France actuellement, quoique on peut toujours en discuter. Alors, la démocratie, quelle définition tu donnerais, Paul, de la démocratie ?
Eh bien, la démocratie... La définition commune, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. En fonction de la définition qu'on a pu donner de ce qu'était la politique, ça va être comment le peuple va s'organiser pour vivre ensemble sur un territoire entre individus et groupes sociaux qui sont dépendants les uns des autres et qui ont des intérêts différents. La démocratie telle qu'elle s'est construite, elle a évolué. La démocratie n'existe pas en soi. La démocratie, c'est une construction. Ce qui caractérise la forme de démocratie qu'on a en France depuis 1789, c'est ce qu'on a appelé la démocratie représentative, qui repose sur un consensus où celui qui a gagné les élections a le droit de décider au nom du peuple. La deuxième caractéristique de la démocratie, c'est qu'on est dans un état de droits qui vont s'acquérir progressivement et qui s'acquièrent dans les luttes. Si on regarde les grands droits démocratiques, le droit de vote va se mettre en place en 1848, pas en 1789. Le roi convoque les États généraux, et là tout le monde avait le droit de s'exprimer, mais la Première République met en place le vote censitaire. Seuls ceux qui ont du pognon, qui payent le cens, ont le droit de voter. Pour que le droit de vote du peuple se mette en place, il faut attendre la révolution de 1848, où les hommes ont le droit de vote. Et il faut attendre 1945 pour que les femmes aient le droit de vote. Vous voyez bien que la démocratie, ce n'est pas un système qui existera en soi. C'est une lutte. Cette démocratie, elle ne va pas en progressant régulièrement. Elle avance par des avancées et des reculs. C'est un combat permanent. Actuellement, le gouvernement essaye de défaire le droit du travail qui s'est construit sur un demi-siècle. La démocratie n'est pas acquise, définitivement. Hitler est mis au pouvoir à l'occasion des urnes. Mais une fois qu'il est au pouvoir, il ne fait plus fonctionner la démocratie. Pétain est mis au pouvoir par le Parlement. Et une fois au pouvoir, il interdit les syndicats, il enlève le pouvoir aux maires, il interdit le droit d'association. Au nom de la sécurité, on met en place un système d'état d'urgence et l'état d'urgence, en s'installant, fait disparaître la démocratie. Mieux, le capitalisme n'hésite pas, quand ses intérêts sont remis en cause, d'intervenir par un coup d'état pour chasser le système démocratique. C'est ce qui s'est passé le 11 septembre 1973 au Chili.
Alors, on a bien compris que la démocratie, ce n'était pas seulement le pouvoir de vote, mais quand même, ça reste quelque chose de central et d'important dans une démocratie. Mais les électeurs votent de moins en moins. On voit des chiffres de participation. Bon, même s'il peut y avoir comme ça une participation en hausse ponctuellement, de manière globale, un nombre peu élevé de personnes choisit ses représentants. Paul.
Oui. Alors là, j'ai essayé de regarder le résultat des élections. Au premier tour, tout est ouvert. Au deuxième tour, on prend ce qui reste. Mais au premier tour, tout est ouvert. Les trois partis qui font le plus de voix, le FN 27,73, la droite 26,65, le PS 23,10. Si on regarde dans les faits où 50% de la population n'a pas voté, on peut dire la fourchette entre lesquelles les partis qui reste pour le deuxième tour, se trouve entre 10 et 15% de la population qui ont voté pour eux. C'est-à-dire que le parti qui a gagné, il y a moins de 15% de la population qui ont dit « on vote pour cette ligne politique ». Ça mérite déjà d'être vu, en tenant compte qu'en plus, une partie de la population du territoire va voter blanc et une partie de la population du territoire n'a pas le droit de vote. Dans les faits, quand on dit la démocratie, c'est le peuple qui décide de comment il va s'organiser sur le territoire en tenant compte qu'ils n'ont pas tous les mêmes intérêts différents, mais qu'on est tributaires les uns des autres, on s'aperçoit que le système de la démocratie représentative permet à un petit nombre de personnes de décider au nom de tout le monde, alors qu'ils ne représentent qu'une petite minorité de la population.
Alors, ton idée force, c'est que le citoyen finalement est dépossédé de son pouvoir de vote. Et aussi dans cette optique, dans cette idée, on a peu parlé dans cette campagne finalement, c'est la réforme des territoires qui entre en jeu. Est-ce que ça, c'est aussi une manière... Finalement, ça a été un mécanisme qui a éloigné l'électeur, le citoyen du politique.
Ça y a contribué. Mon idée, c'est que le citoyen a tendance à être éliminé de son pouvoir de citoyen. La première raison pour laquelle on élimine le citoyen de son pouvoir de citoyen, c'est en faisant en sorte que l'économie lui échappe. En enfermant le pouvoir du citoyen au seul fait d'aller voter, on ne lui demande pas de se positionner sur qu'est-ce qu'il veut consommer, comment il veut produire, comment on va s'organiser pour tenir compte de ses propres besoins. Ce que je fais apparaître dans un deuxième temps, c'est qu'au niveau du vote, on va avoir un système par la représentation et exclusivement par la représentation qui fait que c'est au nom d'une minorité que les gens dirigent. Le troisième aspect avec la réforme des territoires, c'est quelque chose, c'est sur quoi on va demander aux citoyens de se prononcer. On va avoir, à l'occasion des élections régionales, une réforme profonde des territoires. Ce changement sur la réforme territoriale, qui aurait mérité au moins un débat général là-dessus, puisque ça change la manière dont on va être représenté, il s'est joué en petit comité, et ça mériterait de se dire pour quelles raisons on a eu ce changement. Ce changement, il profite à qui? Comment ça se fait que ce changement a été mis en place par Sarkozy et continué par Hollande? D'où il vient ce changement? Qui avait intérêt? Qui l'a voulu? Et là-dessus, on n'a pas eu du tout de débat pendant la campagne électorale. On a fait en sorte que les citoyens regardent ailleurs que ce qui se jouait pour eux.
Alors pour expliquer aussi les résultats des premiers et deuxièmes tours de ces élections, tu nous proposes aussi un retour en arrière, ces 30 voire 40 dernières années, Paul Masson ?
Oui, si on veut comprendre les résultats des élections actuelles de cette fois et les changements progressifs qui ont pu avoir lieu, ça vaut le coup de revenir un petit peu en arrière. À la fin des années 70, au début des années 80, il y a à l'échelle mondiale une idéologie, l'idéologie néolibérale, qui s'est imposée sous la pression des transnationales. Qu'est-ce qu'elle dit, cette idéologie? Elle dit qu'il existe une économie en soi. Il n'y aurait pas des manières de gérer les besoins, il n'y en aurait qu'une en soi. Et il faut que cette économie, elle fonctionne toute seule. Laisser le soin aux gens qui ont de l'argent d'investir quand ils le souhaitent, en fonction des intérêts qu'ils pourront en tirer. Laisser la libre circulation des capitaux et ne lui mettre aucune limite. Qu'est-ce qui va réguler tout ça? Puis si ce n'est plus les États, si ce n'est plus le politique qui régule, qu'est-ce qui va réguler? Ce sera le marché. Et le marché, en le laissant fonctionner tout seul, travaillera pour le bien de l'intérêt général. Voilà la base de l'idéologie libérale qui s'est imposée dans les années 70, qui avait été expérimentée politiquement au Chili après le coup d'État, qui va devenir l'idéologie dominante portée par Thatcher et Reagan, à laquelle va adhérer l'Union européenne. Ce qui va être demandé dans ce cadre-là, comme politique, c'est de faire en sorte que les États facilite le marché. Parmi les grands acquis pour le libéralisme de cette époque-là, ça a été la mise en place de l'OMC. Concrètement, actuellement, cette logique-là fait que les États-Unis et l'Union européenne sont en train de négocier le TAFTA ou TIPP, c'est la même chose, c'est-à-dire un traité qui favorise les échanges commerciaux entre les deux pays. Et les seules fonctions qu'on va demander aux États, c'est d'assurer la police, l'armée et la justice pour protéger les intérêts de la propriété privée. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec ce qui s'était développé après la libération, au moment où, au contraire, on demandait à l'État d'assurer la régulation, d'assurer l'État social. Et il va falloir défaire à l'échelle du monde, très concrètement à l'échelle de l'Europe, tous les acquis sociaux qui avaient été faits progressivement au cours de l'histoire du 19e et du 20e siècle. En France, c'est remettre en cause tous les acquis du programme du Conseil national de la Résistance. La politique ne doit plus s'occuper de la répartition des richesses entre les citoyens. Elle ne doit plus s'occuper de comment vivent les citoyens. C'est le marché qui doit le faire. Progressivement, cette politique-là va s'imposer et va nous faire rentrer dans un cercle vicieux, accompagné par tout un discours médiatique. Vous entendez parler de partis de gouvernement et puis de partis extrémistes. Ce qu'on appelle les partis de gouvernement, qui sont présentés comme réalistes, gestionnaires, c'est ceux qui entrent dans cette idéologie. Ils sont réalistes puisqu'ils ont considéré que le marché régulerait tout et que les lois économiques seraient des lois immuables en soi qui n'auraient rien à voir avec les choix des individus. Et là-dessus, la formule c'était Madame Thatcher, il n'y a pas d'autres alternatives. Alors les partis de gouvernement, c'est ceux qui adhéreraient à cette idéologie et puis sont présentés avec le même terme les partis extrémistes, tous ceux qui n'adhèrent pas à ce projet, à cette idéologie néolibérale, qui vont être présentés comme marginaux, non réalistes, incapables de gérer. Et surtout, ils vont être présentés comme une unité, comme si c'était la même chose, alors que derrière les partis qui n'adhèrent pas au néolibéralisme, on a au moins trois grandes approches du monde qui n'ont rien à voir les unes par rapport aux autres. Entre un projet de société qui dit « il y a besoin d'un rôle politique régulateur », un état social, ce qu'était le gaullisme, et un parti qui dit « il faut changer notre modèle économique, arrêter de courir contre le productivisme pour revoir un type d'agriculture, revoir notre manière de consommer parce que la planète est finie et qu'on veut un avenir pour nos enfants », c'est pas du tout le même projet. Et ça n'a rien à voir non plus avec un parti qui dit le problème, c'est qu'il y a les autres et il faut exclure une partie de la population, nous replier sur nous-mêmes pour pouvoir vivre bien. C'est trois projets de société qui sont différents du projet de société néolibéral, mais ce n'est pas la même chose. Et le discours idéologique va avoir tendance à faire penser le monde binaire. Il y a ceux qui adhèrent à l'idéologie dominante, qui sont présentés comme réalistes, partis de gouvernement sérieux, et ceux qui n'y adhèrent pas, qui sont présentés comme extrémistes. Par rapport à ça, dans la durée, on va avoir, avec le système bipartite qu'il y a chez nous, un tour de rôle où l'UMP et le Parti socialiste vont gérer, à l'échelle de la France, cette politique néolibérale, avec des nuances. La droite et la gauche ne font pas exactement la même chose. Mais l'une comme l'autre, partis de gouvernement, se sont mis à gérer. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Nous, on est des bons gestionnaires du néolibéralisme. Par rapport à ça, on va avoir une progression dans les urnes des votes de réaction d'extrême droite. Par rapport à ces votes de réaction d'extrême droite, les partis au pouvoir qui veulent garder le pouvoir vont modifier leur discours pour l'adapter au discours d'extrême droite. Et on va avoir une droitisation des discours, mais rien au niveau du changement politique. Pas du tout de prise en compte des revendications populaires. Conclusion, on va avoir une montée du Front National, une montée des abstentions, une montée des votes blancs et nuls aux différentes élections. Au deuxième tour, c'est 5% de population qui ont voté blanc. 5%. Et un système électoral qui dit au deuxième tour, n'importe comment, vous ne pouvez pas choisir autre chose que le néolibéralisme ou le fascisme, l'extrême droite. Et on a eu un réflexe contre l'extrême droite, mais pas une adhésion au néolibéralisme. On est vraiment dans un cercle vicieux où les néolibéraux sont au pouvoir, renforcent leur pouvoir en jouant sur la peur de l'extrême droite et rien ne change.
Alors Paul, tu expliques la montée de l'extrême droite comme une réaction au néolibéralisme. Alors pourquoi les gens ne vont pas voter à gauche plus, notamment la gauche de la gauche, Front de Gauche, peut-être une partie aussi d'Europe Écologie Les Verts, Lutte Ouvrière aussi, qui sont aussi des partis qui critiquent le néolibéralisme.
Alors déjà dans la présentation, ce que tu fais, c'est que la gauche de la gauche, elle est loin d'être homogène. Et il y a au moins deux approches dans cette gauche de la gauche, entre des productivistes qui disent c'est dans la création de biens qu'on aura la réponse, et des gens qui disent au contraire, il faut changer de modèle, parce que le productivisme nous met dans l'impasse. C'est-à-dire la gauche de la gauche, elle est loin d'être unifiée de la même manière. Mais surtout, l'approche du FN et l'approche de la gauche et de la gauche, elle est différente sur deux points essentiels. Le FN va travailler sur deux choses. D'une part, le phénomène de peur en période de crise. quand je me sens en insécurité, j'ai peur et j'ai besoin de mettre quelque chose sur cette peur. C'est relativement facile de dire « Ah, vous avez peur, mais c'est normal, vous êtes en train d'être envahi ». Et ça va être le jeu du Front National de jouer sur le bouc émissaire qui fait appel aux pulsions. Le bouc émissaire permet de mettre une forme à cette peur. Le bouc émissaire conduit inexorablement à la guerre. L'autre aspect du Front National qui lui donne du poids, c'est qu'il est toujours dans la logique politicienne de la démocratie représentative. Vous avez voté pour eux, ils ne vous ont pas satisfait, votez pour nous et nous, on va vous satisfaire. C'est aussi quelque chose qui, depuis 1789, dépolitise le citoyen, puisque le problème du citoyen n'est pas de prendre en charge la vie de la cité, mais de donner sa voix à l'occasion d'une élection à des gens qui le feront à sa place. Le discours du Front National est relativement simple, simpliste et démagogue. En face, le discours qui est tenu par la gauche de la gauche est d'un autre ordre. Il dit « il y a nécessité de vous réapproprier votre pouvoir de citoyen ». C'est un peu plus compliqué, se réapproprier son pouvoir de citoyen. Comprendre comment le traité constitutionnel européen s'inscrit dans une politique néolibérale qui s'est développée dans les années 70 et de voir ce que ça a comme conséquence, c'est infiniment plus compliqué à comprendre que celui qui est en train de vous envahir, il faut le supprimer. C'est bien plus compliqué de reprendre son pouvoir de citoyen. Mais il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là. L'initiative pour la création d'une 6e République, de dire effectivement, si on reste dans ce système, on est piégé. Et il faut penser à une 6e République, des éléments de participation, faire en sorte que des programmes, je pense par exemple aux élections municipales, où des programmes ont été pensés avec des citoyens, il y a eu tout un travail de recherche. On est dans l'élaboration de l'alternative ici. Mais c'est infiniment plus compliqué de faire que le discours démagogique. Il y a une cause, l'immigré, l'étranger, l'Europe, votez pour nous et tout sera réglé.
Paul, c'est assez pessimiste peut-être comme manière de voir. Alors comment sortir de cette crise? Comment se réapproprier notre pouvoir de citoyen?
Comment se réapproprier notre pouvoir de citoyen? Mais c'est des choses qui... Il y a quantité d'initiatives qui sont prises dans ce domaine-là. Premier élément, se réapproprier son pouvoir de citoyen, c'est son pouvoir économique. Actuellement, c'est là-dessus qu'on nous a roulé en premier. Mettez votre argent à la banque. Et qu'est-ce qu'elle va en faire, la banque? Elle va spéculer. Il y a une banque alternative, il n'y en a pas 50 en France, c'est la NEF, qui n'est pas sur les mêmes bases, mais il faut sortir son argent des banques et les mettre dans celle-là. Au niveau consommation, tout est organisé. Vous alliez faire vos achats au supermarché, qui vont permettre aux propriétaires des supermarchés de déterminer le prix qu'on va payer le travail. Il y a des alternatives au niveau de l'agriculture paysanne. Sur Arras, il y a Alter Circuit, il y a des AMAP, où des gens au niveau consommation, vont payer aux producteurs le fruit de leur travail plutôt que de le payer à un supermarché qui, lui, va prendre une partie de la valeur produite par le producteur pour son profit. Au niveau de l'investissement, quoi produire? Il existe ce qu'on appelle des cigales où des gens épargnent un peu, déterminent ensemble à quoi leur épargne va servir. Il y a tout ce qui est les systèmes d'échange locaux, où on n'est pas sur du commerce, mais où des gens échangent des savoir-faire contre d'autres savoir-faire. Il y a tout ce domaine de l'économie non marchande. C'est d'abord comme ça qu'on se réapproprie son pouvoir de citoyen, en utilisant son pouvoir de citoyen, et pas en se référant à l'extérieur, à ce qu'ils nous disent qu'il faut qu'on fasse. Il y a, au niveau démocratique, se bagarrer pour garder les acquis démocratiques. Le droit de manifester, le droit de grève, le droit d'association, il y a nécessité de faire très attention. Dans une période où on met en place un système d'état d'urgence, c'est les risques pour la liberté d'expression, pour la liberté de manifestation, pour la liberté d'association. Au niveau de la COP21, il y a un certain nombre de personnes qui voulaient venir, qui n'ont pas pu venir, parce que c'était bloqué, les frontières étaient bloquées ou un certain nombre de choses. Il faut faire attention par rapport à ça, c'est ça notre pouvoir de citoyen. Au niveau politique, faire pression, sur les partis. Quand on voit qu'au niveau des élections, les partis alternatifs, ceux qui n'adhèrent pas au néolibéralisme, présentent chacun leur kyriel de candidats. Aux dernières élections, on avait le Front de gauche qui était sur deux listes différentes. Bon, sérieusement, on ne peut pas les prendre au sérieux. Donc faire pression sur les partis. Le vote blanc, le faire reconnaître. Quand il y a 5% de la population, alors ceux-ci, on n'a même pas dit qu'ils n'étaient pas votés. On a fait comme s'ils n'existaient pas. Et puis, changer nos représentations individuelles. On arrive sur les fêtes de Noël. On voit la débauche de consommation qui coûte excessivement cher, qui finit par perdre son sens. Tous ces objets cadeaux, tout ce qui est fait pour faire en sorte que le troisième âge, qui a un pouvoir d'achat, aille pour un prix dérisoire de l'autre côté de la planète. On est en train de réchauffer la planète inutilement. Progressivement, il faut que ça change dans la tête des gens, que les gens en réfléchissent. Et puis, il y a tout l'enjeu de l'éducation populaire qui permet de comprendre comment nous sommes conditionnés d'une manière aliénante par ce système de consommation et par la pression médiatique. Comment nous sommes conditionnés pour pouvoir nous en émanciper et choisir individuellement individuellement et collectivement la société que nous voulons pour maintenant et pour demain. On ne naît pas citoyen, on le devient. Et pour le devenir, il y a nécessité de comprendre le monde, de se former.
Alors peut-être dernier mot avec toi, Paul Masson, puisque le week-end dernier, tu étais à Paris ou en banlieue parisienne à l'occasion de la COP21 pour un rassemblement alternatif, toujours dans l'optique de la lutte contre le réchauffement climatique. Et en même temps, ça illustre bien un petit peu la thématique de réappropriation de notre rôle de citoyen par rapport aussi à une démocratie représentative qui est peut-être en échec. Enfin, ça, tu peux peut-être nous en parler. Alors, justement, est-ce que tu peux expliquer les deux démarches entre la COP21 et puis le rassemblement alternatif qui a eu lieu?
Oui, samedi dernier, on peut dire qu'il y a eu deux événements majeurs concernant le changement climatique, et les deux ont eu lieu à Paris. Du fait de la COP21, un certain nombre de gens, il y avait 15 000 personnes, qui sont venues de différents pays, qui se sont réunis à Paris pour dire on veut changer de système, pas changer de climat, de dire qu'il y avait une urgence climatique et qu'on ne pouvait pas faire confiance à ceux qui nous représentent pour le faire, parce qu'ils avaient fait leur preuve que jusque-là, ils n'avaient rien fait, parce que parmi ceux qui étaient à la COP21, on avait les multinationales de la pollution dans la logique néolibérale. C'est intéressant de voir le représentant des États-Unis qui, après la COP21, quand tout a été signé, le politique demande aux marchés internationaux de prendre en compte les accords. Vous voudriez bien prendre en compte les accords qu'on a signés. C'est le monde à l'envers. C'est la politique qui commande, ce n'est pas les multinationales. On voit bien comment qu'on est dans une contradiction. En France, la COP21 a lieu. Et pendant ce temps-là, on continue de vouloir travailler pour mettre en place Notre-Dame-des-Landes. Avec tout le conditionnement idéologique qui accompagne. J'écoutais sur France Inter une émission où le journaliste disait à quelqu'un qui n'était pas par rapport à ça, mais enfin, le vol aérien va continuer de se développer, il faut bien qu'on continue de penser les aéroports. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même logique de pensée, mais en même temps, écoutez bien ce qui a été dit à la radio, vous avez entendu parler de la manif des 15 000 participants, vous avez eu des interviews, vous avez vu des photos qui donnaient le point de vue. Non, on a vu les chefs d'État qui se congratulaient pour avoir signé un accord qui ne contraint personne et qui ne sanctionne personne qui ne tient pas ces accords. Il n'y a aucune mesure contraignante et c'est aux États de mettre en œuvre ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Et c'est quand même assez souvent que des hommes politiques, du personnel politique, fassent un discours et ne tiennent pas leur accord. Si on veut que ça change, il ne faut pas se contenter de demander à nos élus. Il faut prendre en charge nos affaires. Il faut devenir citoyen.
Paul Masson, militant de l'éducation populaire, membre d'Attaque et de Culture et Liberté. Pour écouter cette intervention, vous pouvez le faire aussi sur le www.radiopfm.com. Paul Masson est aussi l'auteur du livre « Chemins et mémoires » aux éditions du Petit Pavé, un écrit autobiographique dans lequel Paul évoque son parcours et interroge ses nombreuses années d'action militante. Alors vous pouvez le trouver en librairie ou directement auprès de Paul Masson. Vous pouvez aussi l'emprunter sans l'acheter à la médiathèque d'Arras ou au LAG, le lieu autogéré à Liévin, ou encore à la Maison du Monde Ouvrier à Arras, rue de Jérusalem. Je vous signale aussi, sur le thème de cette intervention, cette soirée débat proposée par le LAG de Liévin. Suite aux dernières élections régionales, le LAG vous propose de venir débattre des perspectives politiques d'un vrai changement, discussion précédée de la projection d'une partie du film « J'ai pas voté ». Ça se passe demain soir à 18h30. Le LAG, c'est au 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Info 30, c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine édition demain, 7h30, 12h30 et 18h. À plus.